comme étendard.
Moi, je pense à sur sa mort, en fait. Parce que des fois, je me dis, est-ce que notre église est connue de sa mort? Est-ce que notre église. Ou est-ce que les Samoréens savent qu'il y a une église ici? Donc, je me dis, peut-être on n'aura pas forcément eu à chaque fois des bons contacts, mais ce que je pense, c'est que petit à petit, les gens connaissent à vraiment savoir, enfin, commencent à vraiment savoir qu'il y a une église, en fait. Parce que bah, tous les ans, à cette période de l'année, on vient, on fait des flyers, etc. Donc, il y a des choses qui se passent. Voilà. Donc, je vous invite à prier avant de commencer ce message. Seigneur, merci encore parce que tu nous utilises encore pour annoncer ton évangile. Et aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour que tu nous gardes encore et que tu nous permettes de voir quel est ton message que tu veux nous faire passer à travers Romains 11, versets 1 à 24, Seigneur. Je te prie pour que tu me guides tout au long de ce message, que tu nous guides, Seigneur, que tu sois, par ton Saint-Esprit, notre parfait guide. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, je vais lire Romains 11, versets 1 à 24, si vous pouvez ouvrir vos Bibles. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même Israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Fais-leur courber constamment le dos. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart entraîne la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage, pardon, de la mort à la vie? Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées, afin que moi, je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature, sur leur propre olivier. Amen. Donc ce passage fait suite au passage que nous avons eu mardi, donc sur Romains 10. Et nous avons vu mardi que plusieurs choses en fait, déjà avant d'avoir ce passage de Romains 11, nous avons vu que les promesses qui ont été faites aux patriarches, donc patriarches, c'est Abraham, Isaac, Jacob, elles se sont toutes accomplies à travers Jésus-Christ. Et nous avions vu aussi que nous étions tous voués à la perdition, et Israël n'a pas su obéir à la loi, et les païens, c'est-à-dire les non-juifs, n'étaient pas encore dans l'ancienne alliance non plus. Mais dans sa grâce, Dieu a élu certains pour être sauvés. Il a même élu des non-juifs pour être sauvés. Dieu fait grâce à qui il veut, juifs comme non-juifs. Et enfin, nous avons vu que nous ne sommes pas sauvés par la descendance d'un patriarche, mais que nous sommes sauvés par notre foi et notre affirmation publique. Par rapport au passage d'aujourd'hui, comme il est assez long, je propose de le découper en trois parties. Donc on va voir d'abord, dans un premier temps, qu'un reste d'Israël est préservé par la grâce du verset 1 au verset 6, donc juste 6 versets. Ensuite, on verra du verset 7 au verset 15 qu'il y a un endurcissement d'Israël qui ouvre la porte du salut aux non-juifs. Et enfin, nous verrons du verset 16 au verset 24 que le rétablissement d'Israël est certain et que l'humilité est demandée aux non-juifs. Donc nous allons voir d'abord un Israël qui est un reste d'Israël qui est préservé par la grâce. Et nous avons vu tout à la fin du chapitre 10 qu'Israël était un peuple désobéissant et rebelle, au verset 21. Nous avons vu aussi que les non-juifs n'ont pas d'excuses par rapport à leur absence de foi, car la parole de Dieu a été diffusée par toute la terre, verset 18, comme l'a rappelé David. Et nous avons vu aussi que les non-juifs ont reçu une révélation de Dieu, au verset 20, ce qui est fait à travers Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection et le salut qu'il offre à tous. Et le chapitre 11 commence avec une question rhétorique. Est-ce que le peuple d'Israël, le peuple élu, est-ce qu'il a été définitivement rejeté par Dieu ? Une question rhétorique, c'est-à-dire, ça appelle une réponse qui est tellement logique en fait. Et Paul répond directement, absolument pas. Il dit lui-même qu'il en est la preuve. C'était un ancien pharisien, il était très bercé dans l'ancienne alliance, il persécutait aussi même les premiers chrétiens. Il fait partie de la tribu de Benjamin. Son peuple était choisi, son peuple juif était choisi et n'a pas été abandonné. Et il le rappelle par sa propre expérience. Et il fait aussi appel à ce qu'il appelle l'élection, parce qu'il l'a connu d'avance. Il fait appel à l'élection d'un peuple et non plus d'une personne individuelle. Donc on a parlé d'une élection d'une personne dans Romains 9, mais là on parle de l'élection d'un peuple. Et à plusieurs reprises dans le Saint-Testament, on a vu que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, qu'il était dans la détresse, puis ensuite Dieu envoie un libérateur pour faire face à l'oppresseur. Et ça a commencé avec Moïse, on le voit quand Moïse délivre le peuple d'Égypte, puis ça a continué avec Josué, puis avec les juges, les cycles des juges, vous connaissez, c'est exactement ça. À chaque fois, le peuple fait appel à Dieu parce qu'ils sont, ils ont vraiment besoin de Dieu, parce qu'ils sont sous l'oppression des Philistins, je crois, dans les juges. Et après, Dieu envoie un juge, Samson notamment et d'autres. Et à chaque fois, il les délivre. Et après, il y a une période prospère qui dure seulement quelques années. Et après, paf, on retombe encore dans l'idolâtrie d'Israël. Et de nouveau, Dieu qui les abandonne à leur péché. Et puis après, de nouveau, des prières qui s'élèvent. Et après, un libérateur, etc. C'est un cycle. Et enfin, dans les rois, c'est un peu la même idée. Ils succèdent de mauvais rois. Et puis à un moment donné, il y a un bon roi. Alors du coup, Dieu leur accorde une paix, certes limitée, mais une certaine période de paix avec Josias, avec Ézéchias. Donc voilà, il y a Josaphat. Donc il y a plusieurs rois, peu de rois bons qui sont succédés, mais il y a toujours eu un cycle où le peuple faisait appel à Dieu, Dieu répondait. Et en fait, même après l'exil, les Israélites, donc une fois que le royaume du sud, Juda, a été déporté en 586 avant Jésus-Christ, ils ont été déportés en Babylone, et même à ce moment-là, même après cela, les Israélites attendaient encore la venue d'un Messie. Et pas forcément sous la forme spirituelle d'un royaume tel que Jésus l'apporte, mais eux, dans leur tête, c'était vraiment un royaume, un peu comme les rois qui s'étaient succédés. Ils pensaient à un roi qui allait les délivrer de l'emprise des Romains, et un roi physique, en fait. Et d'ailleurs, Paul raconte l'histoire ensuite d'Élie. Élie, c'est juste après qu'il a confronté les prophètes de Baal. À ce moment-là, il a quand même fui parce que Jézabel, c'était une reine qui a pratiqué énormément le culte de Baal et qui du coup était à fond dans l'idolâtrie. Elle l'a menacé de mort. Et à ce moment-là, il se croyait le seul homme ayant la foi en Dieu. Mais Dieu lui répond qu'il y a 7000 hommes qui lui sont restés fidèles. Et après, Paul, il translate ça par rapport à la situation présente en disant que, bah, de la même façon qu'il y avait un reste de personnes qui étaient restées fidèles à Dieu, qui étaient encore croyants, qui avaient la foi en Dieu, de la même façon, aujourd'hui, au moment où il parle, il dit qu'il y a un reste et conformément à l'élection de la grâce. Et en gros, il détaille ça en disant que par sa grâce, Dieu a permis à certains juifs d'être sauvés au travers de la foi. Et la grâce, c'est quoi? En fait, la grâce, c'est le fait d'obtenir quelque chose que nous ne méritons pas. La grâce, c'est le fait d'obtenir quelque chose que nous ne méritons pas. Cela ne s'obtient donc pas par les œuvres. Et on sait que toutes les religions, et dont le judaïsme, précisent que les œuvres permettent d'obtenir le salut, permettent d'obéir à la loi. Mais la foi chrétienne dit que c'est par la grâce, c'est-à-dire que ce que Dieu nous donne par son élection et par sa libre volonté, c'est par sa grâce uniquement que les hommes croient, qui croient en lui, sont sauvés en fait. Il s'agit d'un véritable motif d'espérance parce que la foi se base uniquement sur la grâce et la grâce elle-même se base sur la volonté de Dieu et non sur nos efforts. Donc notre salut, notre justification est garantie par uniquement la grâce de Dieu et on sait que celle-ci est vraiment fiable parce que c'est Dieu qui a versé son sang à travers Jésus-Christ pour notre vie. Et ça, c'est fait une fois pour toutes. Notre foi ne repose pas sur ce que nous vivons, sur les circonstances de la vie présente, mais notre foi repose sur ce que Christ a fait pour nous à la croix. Maintenant, regardons le verset 7 au verset 15. Deuxième partie, j'ai intitulé « Un endurcissement d'Israël qui ouvre la porte du salut aux non-juifs ». Un endurcissement d'Israël qui ouvre la porte du salut aux non-juifs. Paul développe sa position. Israël a cherché le salut par les œuvres, mais ne l'a pas obtenu. Mais ceux parmi Israël, et aussi parmi les non-juifs qui ont été choisis, ont obtenu le salut, tandis que d'autres ont été endurcis. Et cela vient de Dieu, comme le dit le verset 8. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai lu ça, en fait, pour moi, ça fait écho à ce que Jésus répond à ses disciples dans Matthieu. Dans Matthieu 13, il me semble, quand il s'explique la parabole du semeur, les disciples lui demandent « Mais pourquoi tu parles en parabole ?» Et Jésus, il cite Ésaïe, et il dit « Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et juste dans la même idée, au verset 9 et au verset 10, il en rajoute une couche en disant « Que leurs yeux soient obscurcis. » Ainsi, certains ont été sauvés, car dans la Nouvelle Alliance notamment, car les paraboles de Jésus ont permis de faire le tri, en fait, ont permis à la parole de Dieu d'agir, et ça permet de faire le tri entre ceux que Dieu voulait endurcir et ceux que Dieu voulait sauver. Il y a un passage aussi dans Ésaïe qui dit que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait d'effet. Et quand on prêche l'Évangile, nous semons, nous arrosons, et en fait, il y a toujours une réponse. Soit ça va être le cœur des gens qui va être de plus en plus ouvert, ou soit ça va être l'endurcissement. Mais ça dépend pas de nous, en fait. Notre rôle, c'est d'être les instruments que Dieu utilise pour annoncer son évangile. Au verset 11, continuons. Autre question rhétorique de Paul. Il dit, est-ce que les Israélites, ils ont trébuché pour tomber définitivement? Encore une fois, non. Car comme vient de le dire Paul, un reste parmi Israël a été préservé. Et leur chute momentanée a été nécessaire pour ouvrir de manière visible le salut aux non-juifs, au verset 11. Conséquence pour ces non-juifs, c'est la richesse du monde, la richesse des non-juifs. Conséquence pour Israël, c'est le faux pas et la déchéance. Et Paul explique ensuite à ses destinataires non-juifs, donc au verset 13 et au verset 14, qu'il espère que le salut ouvert aux non-juifs permettra d'ouvrir les yeux aux juifs via ce qu'il appelle une certaine jalousie, une saine jalousie. Et moi, ça me fait penser à Acte 10, où Pierre va chez Corneille, et que Dieu lui montre en fait que le salut est ouvert aussi aux non-juifs. Et à ce moment-là, ben, Pierre, il reçoit ça comme venant de Dieu, en fait. Donc, il l'accepte. Et il justifie avec le verset 15 que si la mise à l'écart des Juifs a ouvert la réconciliation du monde, pardon, il justifie avec le verset 15 que si la mise à l'écart des Juifs a ouvert la réconciliation au monde entier, donc c'est-à-dire la réconciliation entre les hommes et Dieu grâce à la mise à l'écart des Juifs, eh bien, cette mise à l'écart, en fait, elle est temporaire. Pourquoi? Parce que leur réintégration, il dit qu'elle va se passer, donc leur réintégration, la réintégration des Juifs produira le passage de la mort à la vie. Et ce passage de la mort à la vie, c'est ce qu'on considère le réveil spirituel d'Israël, en fait. On sait qu'il y aura un réveil spirituel d'Israël. Il va ensuite utiliser une image très parlante pour illustrer ses propos avec l'image du pain et l'image de l'olivier. Et c'est là que vient notre troisième partie, que j'ai appelée le rétablissement d'Israël est certain et il y a une unité demandée aux non-juifs. Verset 16 au verset 24. Paul commence avec l'image du pain. Il enchaîne ensuite rapidement avec une image plus développée, en parlant des racines et des branches de l'olivier. Et il parle des prémices. Alors je vais lire au Romains 11. Alors moi j'ai une version où c'est la seconde 21. Donc il dit, Or si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et il y a des versions un peu plus anciennes de la Bible. Donc dans la seconde notamment, on dit, les prémices sont saints et tout le reste l'est aussi. Et en fait, quand on parle de prémices, en fait, les prémices, c'était une offrande religieuse qui était prélevée sur les premiers fruits de la récolte. Donc, il y avait une récolte et les premiers fruits qu'on avait, on les offrait à Dieu, en fait. C'est ça, les prémices. Et en gros, si les prémices du pain sont saintes, tout le pain l'est aussi. Et après, il enchaîne avec l'olivier en disant que si la racine de l'olivier est sainte, bah, toutes les branches qui découlent de ces racines qui elles-mêmes sont saintes, bah, forcément, ces branches aussi sont saintes. Et quand on parle des prémices et des racines, on peut considérer que ces prémices, en fait, on parle des patriarches, en fait. On parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on va voir ça par la suite. Paul explique que des branches de l'olivier ont été coupées. Donc on peut supposer qu'elles ont été coupées par le vigneron, et que ce vigneron, c'est Dieu. Et il explique ensuite que les non-juifs, ils représentent en fait un olivier sauvage qu'on a coupé. On a coupé les branches et on a greffé des branches de l'olivier sauvage sur l'olivier qui a été cultivé par Dieu. Ils ont été greffés parmi les branches qui sont restées. Mais pour être greffé, il a fallu d'abord couper des branches de l'olivier cultivé, pardon, pour que les branches de l'olivier sauvage soient greffées dessus. Et ça, c'est Israël, en fait. Et ainsi, les branches donc de l'olivier sauvage, donc les non-juifs, qui ont été greffées à l'olivier cultivé par Dieu, bah, ces branches-là participent à la racine et à la sève de l'olivier. Et la sève, c'est tout ce qui donne la vie, en fait, dans l'olivier. C'est-à-dire qu'ils obtiennent les promesses faites aux patriarches et que les promesses qui étaient faites aux patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, et à travers tout le peuple juif, toutes ces promesses, finalement, elles s'accomplissent aussi, elles s'appliquent également à ces non-juifs, en fait, qui ont la foi. Et ainsi, en tant que chrétien non-juif, Paul nous exhorte à ne pas nous vanter aux dépens des branches qui ont été coupées, parce que c'est pas nous qui avons coupé ces branches, c'est Dieu en fait, c'est Dieu qui a coupé ces branches. Et ces branches qui ont été coupées, c'est les Juifs. Et pourquoi? Parce que c'est la racine, donc la promesse qui a été faite aux patriarches à travers le peuple d'Israël, et ben on bénéficie de ces choses-là, et c'est la racine qui porte le chrétien. Donc c'est-à-dire que ce sont les promesses qui ont été faites qui portent le chrétien, c'est ce que Dieu a annoncé d'avance dans sa parole qui porte le chrétien et non le contraire. C'est pas le chrétien, il fait les choses et après on dit, ah ben, c'est que grâce à ta foi. C'est Dieu qui dirige tout ça. Nous devons donc rester humbles. Paul dit plusieurs fois de ne pas nous enorgueillir à cause de ça. Et du coup, il anticipe une remarque que pourrait faire l'auditeur chrétien qui est non juif, du coup. Et en gros, ça serait, pourquoi considérer l'importance des branches coupées? Parce qu'en tant que chrétien, j'ai été greffé parmi les branches. Pourquoi est-ce que je devais me préoccuper des branches qui ont été coupées? Et Paul répond que ces branches ont été coupées à cause de leur incrédulité. Tandis que nous ne devons qu'à notre foi, cette foi qui a été donnée par Jésus, de subsister parmi ses racines. Et cette foi qui est donnée par Jésus, on le voit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, si on peut prendre ensemble. Éphésiens 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Les branches qui étaient les Juifs ont été coupées à cause de l'incrédulité. Et nous subsistons juste par la grâce de Dieu qui a mis en nous cette foi en fait. Et cette foi, elle est stable parce que c'est Dieu qui nous la donne. Et nous ne devons donc pas nous enorgueillir comme si le salut dépendait de nous-mêmes en fait. Parce que le salut dépend uniquement de Dieu et de sa grâce. Et au contraire, Paul nous exhorte à avoir de la crainte, une sainte crainte. Car nous pouvons, au même titre que les Juifs, tomber dans l'incrédulité et donc être retranché à notre tour. Paul présente donc les deux facettes de Dieu au verset 22. Sa sévérité et sa bonté. Ce qu'on peut dire aussi, c'est sa sainteté et son amour. Sa sévérité, sa bonté, on peut dire sa sainteté et son amour. Les deux sont indissociables. Dieu est sévère envers l'absence de foi. Dieu est sévère envers l'absence de foi, mais il fait grâce et donne la foi par amour envers les élus. Et si nous avons été au bénéfice de la grâce, nous avons reçu cette foi, gardons-la, gardons cette foi. Sinon, nous risquons ensuite d'être retranchés. Et ça montrera en fait que nous n'étions pas vraiment élus. Ou alors, ça montrait que nous sommes éloignés pour un peu de temps avant de revenir dans la foi, et dans ce cas-là, on serait élus. Voilà. Dieu garde son peuple. Et quand on voit, je vais juste expliciter un peu plus, quand on voit des personnes qui ont grandi dans l'Église, qui quittent l'Église, et pourtant ils sont fait baptiser, ils ont vraiment déclaré publiquement qu'ils croyaient en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, eh bien, soit on considère que, en fait, ils n'étaient pas vraiment élus, et du coup, ils n'étaient pas vraiment sauvés. À la base, il a fait une confession deux fois, et une déclaration publique, mais elle n'était pas forcément sincère. Il y a des gens qui ne sont pas forcément sincères que le font, j'en connaissais. Ou alors, ça peut être, il était sincère, mais il s'est éloigné à cause des épreuves, mais après, un jour, il va revenir. Et s'il revient, ça montrera qu'à la base, il était vraiment élu et que Dieu l'a permis de passer par ces épreuves-là. Donc après, c'est pas à nous de juger, en fait. C'est là que j'arrive à mon but, c'est pas à nous de juger, en fait, qui est élu ou pas élu. Mais si on a un doute sur la foi de quelqu'un, prêchons l'évangile. Parce que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, en fait. Au mieux, on prêchera l'évangile et finalement, il sera vraiment sauvé. Et au pire, il n'était pas chrétien et du coup, on prêche l'évangile et il est sauvé. Donc, par amour pour les autres, si on a des frères et sœurs, on a des doutes, je ne veux pas dire parlons-leur comme si c'était des non-chrétiens, mais vraiment insistons sur l'évangile, en fait. Et ce n'est pas nous de juger qui est élu ou pas élu, mais dans le doute, prêchons l'évangile. Enfin, au verset 15. Enfin, Paul revient sur ce qu'il avait dit au verset 15. Au verset 15, il disait « En effet, donc il parlait d'Israël, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ?» Et il reprend un peu cette même idée au verset 24 avec l'image de l'olivier, cette fois-ci. Il dit « Si toi, chrétien, non-juif, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier qui est cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. » Paul rappelle en fait qu'un reste d'Israël va être réintégré, qui va être greffé aux racines, aux promesses qui ont été faites aux patriarches. Et cela va se faire non plus selon l'ancienne alliance, mais selon la nouvelle alliance. Le salut par la foi. En fait, Dieu a utilisé l'ancienne alliance pour annoncer Jésus. Et quand Jésus est venu, il y a eu cette nouvelle alliance qui a été faite. Et cette nouvelle alliance inclut aussi les Juifs, en fait. Les Juifs comme les non-Juifs. Et c'est le salut par la foi. Uniquement le salut par la foi. Il ne s'agit en aucun cas du salut par les œuvres. Parce qu'il a été démontré tout au long, en fait, de la Bible, quand vous lisez. Ou tout au long des lettres dont Paul parle. Et dans Galates, il insiste dessus, il y a des chrétiens dans Galates qui retournent, qui sont des judaïsants, qui retournent en fait à l'ancienne alliance, qui veulent se faire circoncire. En gros, c'est comme pour dire ce qu'on a dit hier avec le syncrétisme, C'est ah ok bah j'étais juif mais maintenant j'ai Jésus en plus mais je suis juif et j'ai Jésus en plus mais c'est en plus c'est pas que Jésus en fait et là Paul les condamne en disant non non il y a uniquement le salut par la foi le salut par la foi donc nous avons vu ensemble aujourd'hui qu'un reste d'Israël était sauvé et que ce salut se faisait uniquement à travers Christ. Et ça a été possible grâce à la chute du peuple juif que Dieu a prévu de manière globale. Et cette chute du peuple juif a ouvert le salut aux non-juifs comme aux juifs, mais grâce à quelque chose de stable cette fois-ci, grâce à la foi donnée en Jésus-Christ. Et néanmoins, Paul explique qu'une partie d'Israël sera greffée à nouveau, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver, sur l'olivier de vie. Et ça, c'est ce que détaillera demain Laurent à travers son message de demain matin. Je vous invite à prier.